RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Julien, bonjour à tous.
Un chiffre à la une de cette édition, la scolarité d'un enfant sur sept perturbée par des événements climatiques extrêmes en 2024.
C'est l'UNICEF qui évoque ce chiffre dans un rapport, le premier du genre. L'organisation déplore cet impact négligé de la crise climatique. Tout sera révélé, voilà la promesse de Donald Trump à la signature d'un décret déclassifiant toutes les archives du gouvernement américain sur les assassinats de John et Robert Kennedy et de Martin Luther King. Nous sommes à Washington dans ce journal. À la une également, la République démocratique du Congo. Le patron de l'ONU s'alarme de l'offensive du M23 et du risque de guerre régionale. En France, une première prison de haute sécurité pour narcotrafiquants. Elle sera en fonction dès cet été, annonce de Gérald Darmanin. Vous entendrez la réaction dans ce journal du président de la section France de l'Observatoire international des prisons. Et puis attention, si vous êtes adepte du lissage brésilien, l'agence de sécurité sanitaire confirme la toxicité pour les reins des produits de lissage et appelle à restreindre leur usage, voire à les interdire.
C'est une conséquence palpable du réchauffement climatique.
Les événements climatiques extrêmes se multiplient sur la planète. Canicules, typhons, inondations ou encore sécheresses. Et ces événements ont perturbé la scolarité de près de 250 millions d'enfants dans le monde l'an dernier, soit un enfant sur sept. C'est un rapport de l'UNICEF qui le pointe, le premier du genre. Et si certains pays sont tout particulièrement touchés, comme l'Afghanistan, le Bangladesh ou encore le Mozambique, toutes les régions du monde sont aujourd'hui concerné. Les précisions avec Simon Rosé.
À lui seul, le typhon Yagi, qui a frappé l'Asie du Sud-Est en septembre dernier, a perturbé la scolarité de 16 millions d'enfants en cette période clé de rentrée des classes. Tempêtes et inondations se sont multipliées en 2024, tout comme les vagues de chaleur. Rien qu'en avril, 118 millions d'élèves ont pâti des températures très élevées qui se sont abattues sur une large partie de l'Asie. Le Bangladesh et les Philippines avaient alors fermé leurs établissements scolaires. Le Cambodge avait réduit le nombre d'heures d'école. Les températures avoisinaient 47 degrés, une chaleur difficilement supportable pour un adulte, dangereuse pour un enfant plus vulnérable. Son corps se chauffe plus vite et il a plus de mal à évacuer la chaleur. Au total, en 2024, ce sont ainsi 242 millions d'enfants de 82 pays qui ont vu leur année scolaire plus ou moins amputée en raison d'événements météo extrêmes. L'UNICEF documente les conséquences. Elles sont multiples. Au-delà du retard à l'apprentissage, la fermeture prolongée des écoles augmente le risque de déscolarisation, celui de mariage précoce et de travail des enfants. Une situation également profondément inégalitaire. L'agence onusienne note que les filles sont bien plus concernées par ces risques que les garçons.
Simon Rosé, chef du service environnement d'RFI, on parlait de l'Asie du Sud, particulièrement touchée par des épisodes de canicule extrême. Elle l'est aussi par des épisodes de pollution. 350 écoles sont désormais fermées à Bangkok, en Thaïlande, en raison de la pollution de l'air. Une centaine de plus donc qu'hier.
Aux États-Unis, Joe Biden avait commencé à le faire. Donald Trump promet désormais d'aller plus loin.
Et le président américain va déclassifier toutes les archives du gouvernement américain sur les assassinats de Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy et son frère Robert Kennedy. À Washington, les explications de Guillaume Nodin.
Il l'avait promis, il l'a fait. Et comme d'habitude, il s'est mis en scène pour le faire. Dans le bureau ovale, Donald Trump saisit un parapheur et explique que de nombreuses personnes attendaient cela depuis des années et même des décennies. Et c'est vrai que l'assassinat du président John Kennedy, en particulier, a suscité beaucoup d'attention et beaucoup de théories depuis 1963. Le dernier à avoir ordonné la déclassification de documents à ce sujet est Joe Biden. Et depuis, les archives nationales estiment que près de 99% des 5 millions de pages du dossier sont publiques. Le reste n'est pas accessible pour des raisons de sécurité nationale. Cela entretient de nombreuses théories du complot au sujet du meurtre de Dallas. Tout sera révélé, dit Donald Trump, qui a la délicate attention de garder le feutre avec lequel il signe son décret pour RFK Jr., celui qu'il a choisi comme ministre de la Santé et le neveu de JFK et le fils de Bobby Kennedy, assassiné en 1968. Depuis toujours, il se dit persuadé de l'implication de la CIA dans ces deux assassinats. La famille de Martin Luther King, assassiné lui aussi en 1968, a régulièrement mis en doute la culpabilité de l'homme qui a été condamné et qui est mort en prison. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et Donald Trump qui multiplie les décrets. Hier, il a gracié 23 personnes poursuivies par le précédent gouvernement pour avoir participé à des manifestations contre l'avortement. Et puis Donald Trump annonce par ailleurs qu'il va faire appel de la décision d'un juge fédéral de Washington qui a retoqué hier son décret remettant en cause le droit du sol aux États-Unis, pourtant inscrit dans la Constitution américaine.
L'Ukraine, de son côté, dit soutenir pleinement les efforts de Donald Trump, en l'occurrence les efforts pour faire baisser les prix du pétrole.
Hier, le président américain a déclaré au Forum mondial de Davos que la guerre entre la Russie et l'Ukraine prendrait fin immédiatement si les prix du pétrole baissaient. L'Ukraine, où l'armée russe continue de faire pression sur la région de Donetsk, sur la région également voisine de Kharkiv. Ces derniers jours, la Russie a notamment tenté de nouvelles offensives dans cette région frontalière. Précision à Kiev avec Emmanuel Chaz.
Malgré l'hiver, les offensives russes se multiplient dans la région de Kharkiv et plus précisément via la rivière Oskil, d'où les forces russes tentent de lancer des assauts d'infanterie via des canaux pneumatiques. Des attaques jusque-là repoussées côté ukrainien et rendues difficiles par les conditions météorologiques. L'eau de la rivière n'ayant pas gelé, ces assauts visent plus à épuiser les ressources ukrainiennes qu'à être véritablement efficaces, puisque les Russes ne parviennent pas à établir leur logistique et à envoyer des blindés en appui de leur infanterie. La région de Kharkiv, partiellement occupée entre février et septembre 2022, avait été libérée, mais Moscou avait lancé de nouvelles offensives, signe de la nervosité de Kiev à ce sujet. Des hauts gradés chargés de la défense de la région en mai 2024 lors d'une nouvelle offensive russe ont été arrêtés il y a quelques jours. Les généraux Yuri Halushkin, Arthur Horbenko et le colonel Ilya Lapine sont accusés d'avoir mal défendu l'oblast au printemps dernier. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et ces dernières heures, des frappes de drones russes sur un immeuble d'habitation et sur une maison ont fait 2 morts dans la région de Kiev, annonce d'une responsable de l'administration militaire de la capitale ukrainienne.
RFI 6h07 à Paris. Il s'alarme de l'offensive du M23 et du risque de guerre régionale en République démocratique du Congo. Et
Antonio Guterres, le patron de l'ONU, qui condamne l'extension de l'offensive du groupe armé du M23 dans l'est de la RDC. Hier, des combats ont eu lieu autour de la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale. Des affrontements qui opposent forces armées congolaises et leurs alliés aux combattants du M23, soutenus par l'armée rwandaise. On fera un point complet sur place dans le journal de 6h30.
L'Italie se justifie sur l'expulsion du chef de la police judiciaire libyenne.
Mais pourtant recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, Osama El Masrinjim a été arrêté à Turin dimanche dernier avant d'être relâché 2 jours plus tard, reconduit ensuite par un vol de l'armée italienne jusqu'en Libye. Devant le Sénat, le ministre italien de l'Intérieur a expliqué que la procédure normale pour l'arrestation d'une personne visée par un mandat d'arrêt de la CPI n'avait pas été suivie, poussant la Cour d'appel de Rome à ordonner sa libération. La CPI qui a pour sa part fait savoir mercredi qu'elle n'avait pas été consultée par les autorités italiennes. À La Haye, Stéphanie Maupas.
En libérant le responsable libyen, les juges de Rome ont dénoncé un vice de procédure, mais la CPI a depuis donné sa propre version. Délivré le 18 janvier, le mandat d'arrêt a été transmis à 6 pays, dont l'Italie. En visite à Turin pour un match opposant la Juve à l'équipe de Milan, Osama Najim était arrêté le lendemain sur la base du mandat de la Cour. Le procureur lui reproche d'avoir, depuis 2015, ordonné aux forces spéciales de dissuasion, une unité spéciale de la police, d'avoir commis des meurtres, des tortures, des viols et des violences sexuelles contre des migrants incarcérés à la prison de Mitiga. Mais voilà, le suspect est libre et les chances d'arrestation désormais très minces. La Cour indique que le mandat et la demande d'arrestation ont été transmis par les canaux établis par les États membres de la CPI. La Cour indique avoir transmis des informations en temps réel permettant de localiser le suspect dans la zone Schengen. Mais cette Cour ne dispose pas de moyens de coercition pour forcer les États à coopérer avec elle, même si ses juges pourraient néanmoins demander à l'Italie de s'expliquer. Stéphanie Mopalae, RFI.
L'actualité en France à présent, le ressortissant pakistanais qui a tenté de tuer 2 personnes devant les locaux de Charlie Hebdo en septembre 2020, pensant s'en prendre alors à des salariés du journal satirique. Il a été condamné hier soir à 30 ans de prison par la Cour d'assises spéciale des mineurs de Paris. La France toujours, où la lutte contre le narcotrafic s'accélère. Une première prison de haute sécurité ouvrira ses portes fin juillet. 2 autres d'ici 2 ans pour détenir plus de 600 narcotrafiquants narcotrafiquants particulièrement dangereux. Voilà l'annonce faite hier par Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Les détenus qui seront donc à l'isolement total, regroupés tous dans un même lieu pour Maître Mathieu Quinqui, président de la section France de l'Observatoire international des prisons. Ce n'est pas une bonne décision, écoutez.
Ce qui apparaît comme une innovation semble en réalité le recyclage d'une formule oubliée dans les années 80, qui sont les quartiers haute sécurité, qui n'ont pas été abandonnés pour rien, parce que les conditions de détention y étaient évidemment attentatoires aux droits des personnes détenues, en isolant très strictement les personnes entre elles et du reste de la détention, et en les soumettant à des mesures de sécurité qui, par la multiplication des fouilles, par les contrôles répétés sur leur communication, sur leurs conditions de vie, portaient in fine atteinte à leurs droits. Ça nous préoccupe évidemment de voir ce type de régime ressuscité par Gérald Darmanin aujourd'hui.
Le président de la section France de l'Observatoire international des prisons, joint par Olivier Sherman, lui a toujours clamé son innocence, condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue. La France et l'Indonésie doivent signer ce matin un accord portant sur le transfèrement vers Paris de Serge Atlaoui. C'est ce qu'on apprend de sources concordantes auprès de l'agence France Presse. Le Français, âgé de 61 ans, doit être transféré le 4 février prochain vers la France. C'est ce que précise à l'AFP le ministre indonésien en charge des affaires juridiques et des droits humains.
Après avoir été adopté en première lecture au Sénat hier, le plus dur reste à venir pour le gouvernement sur la question du budget.
Puisque le projet de loi de finances 2025 passera devant une commission mixte paritaire chargée d'aboutir à un texte de compromis le 30 janvier prochain. Si la configuration de la commission est plutôt favorable au gouvernement, la version commune du texte devra passer le filtre de l'Assemblée nationale pour un ultime vote ou un possible usage de l'article 49.3. Charlotte Urien-Tomaca.
Cette commission sera sans doute l'une des dernières occasions d'intégrer des concessions à la copie afin d'éviter la censure. 7 députés et 7 sénateurs devront s'accorder sur le texte modifié par le Sénat et la gauche sera donc en minorité avec 3 PS et 1 LFI. Pour Rémi Féraud, sénateur, même si le PS n'est pas majoritaire, il faut continuer à faire pression sur le gouvernement.
Pas un problème de composition de la CMP puisque une CMP majoritaire n'emporte pas forcément le vote de l'Assemblée nationale. Les soutiens du gouvernement, macronistes et LR, sont majoritaires à la CMP, mais ils ne le sont pas à l'Assemblée nationale.
Du côté du socle commun, ils seront 8 en CMP à être issus de leur rang. Mais François Patriat, patron des sénateurs Renaissance, ne se fait pas d'illusions. Il faudra utiliser l'article 49.3 pour faire passer le budget.
La configuration de l'Assemblée nationale qui fait que, sans doute, faudra-t-il envisager un 49.3 pour le faire passer.
En parallèle, les négociations continuent. La droite majoritaire au Sénat n'entend pas céder et craint de nouvelles hausses d'impôts cédées aux socialistes. Pour Nathalie Goulet, sénatrice UDI, le pays est scruté et n'a pas le droit à l'erreur.
La cotation de la France chez les différents acteurs qui s'occupent des investissements internationaux nous regarde. Donc, il nous faut un budget.
D'ici le 30 janvier, date de cette CMP, le PS espère encore faire bouger les lignes.
Et les précisions de Charlotte Urien-Tomaca du service politique d'RFI. Et puis je vous le disais en titre, attention si vous êtes adepte du lissage brésilien. L'agence de sécurité sanitaire française confirme la toxicité pour les reins des produits de lissage des cheveux. Appelle à restreindre leur usage, voire à les interdire. Les précisions de Sylvie Coffi.
Les autorités sanitaires françaises recommandent en effet de ne pas et de ne plus utiliser de produits lissants capillaires à base d'acide clioxylique car ils peuvent causer une insuffisance rénale aiguë. À la suite de 3 signalements d'effets indésirables graves chez des utilisatrices ayant réalisé un lissage brésilien dans un salon de coiffure, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail s'est appuyée sur des études scientifiques avant de rendre ses recommandations. Conclusion, elle juge fortement probable que l'acide clioxylique soit responsable de ces 3 cas d'insuffisance rénale. En passant dans le sang par le cuir chevelu, cette substance se transforme en cristaux d'oxalate de calcium endommageant les reins. L'ANSES souhaite voir l'Union européenne se prononcer sur la limitation, voire l'interdiction de cette substance dans les cosmétiques.
C'était Sylvie Coffi.
Merci Jeanne Bartoli. RFI Matin, 3 heures d'information et les États-Unis à nouveau à la une. Au quatrième jour du nouveau mandat de Donald Trump, il avait promis des expulsions massives de sans-papiers. Les premières raids de grande ampleur ont eu lieu hier à Chicago et Boston. On fait le point avec notre correspondant David Thompson tout à l'heure. Donald Trump et ses promesses énergétiques également. Analyse de sa politique pro-gaz et pro-pétrole américain avec aujourd'hui l'économie. Et puis, à quoi doit s'attendre l'Union européenne alors que le président républicain menace de lui imposer de nouveau des droits de douane à l'importation? Faut-il craindre des conséquences sur l'économie française? Ce sera l'une de nos questions pour notre grande invitée internationale tout à l'heure, la secrétaire générale du syndicat CFDT, Marie-Lise Léon. L'actualité ce matin, c'est aussi l'Est de la République démocratique du Congo, des combats hier autour de la ville de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, entre l'armée congolaise et les combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Le secrétaire général de l'ONU appelle le groupe armé à cesser son offensive, Antonio Guterres, qui s'alarme du risque d'une guerre régionale. On fait le point complet dans le prochain journal Afrique dans moins de 20 minutes. Et puis à la une également, l'armée israélienne qui continue son opération à Jenin en Cisjordanie occupée. 12 morts depuis mardi, des routes détruites notamment et des centaines de Palestiniens qui ont quitté le camp de réfugiés hier après les appels à évacuer.
Ils nous ont donné jusqu'à jeudi soir, 17h, pour quitter le camp avant qu'ils ne le bombardent. C'est un déplacement forcé. Les gens sont éparpillés dans la région. Certains ont trouvé refuge dans les hôpitaux, d'autres chez des proches. On se dit, ils en ont fini avec Gaza et désormais c'est notre tour.
Témoignage à Jenin au téléphone de Sami Bourlifa dans le journal de 6h, temps universel. RFI Matin, au sommaire également aujourd'hui le Gabon et cette question, Brice Oligui Nguema sera-t-il candidat à la présidentielle le 12 avril? Qui aura-t-il en face de lui? Le chercheur Bergès Mietté est l'invité RFI Matin de Christophe Boisbouvier dans une demi-heure. Et puis les sports, comme chaque jour, le basket et la NBA à Paris, le retour triomphal de Victor Wembanyama sur ses terres et la victoire des Spurs contre les Pacers hier soir. Victor Messistrano était sur place et vous l'entendrez. Et pour le point complet sur les sports, on retrouve Florence Valmet tout à l'heure. Mais d'abord, peut-on encore rêver d'un monde sans armes nucléaires? Cette semaine, le 22 janvier, marquait le quatrième anniversaire de l'entrée en vigueur du traité de l'interdiction des armes nucléaires, ratifié en 2021 par 50 pays du Sud global. Bonjour Carlotta Morteo.
Bonjour, bonjour à tous.
À cette occasion, l'organisation japonaise Nihon Hidankyo, la confédération des victimes de la bombe A et H, qui a reçu le prix Nobel de la paix cette année, a envoyé une délégation en France, à Paris, pour rappeler les risques que font courir les armes atomiques pour l'humanité.
Et oui, parce que plus le temps passe, plus la mémoire s'efface et ils ne sont plus très nombreux. Les Ibakusha, comme on appelle en japonais les survivants des bombardements américains sur Hiroshima et Nagasaki. Écoutons monsieur Shigemitsu Tanaka, il a 84 ans, il est l'un des derniers témoins de l'enfer nucléaire.
1945年8月9日、私は満4歳で Le 9 août 1945, j'avais 4 ans, nous étions une famille de 6 personnes et nous vivions à 5 km du point zéro. J'étais en train de jouer avec mon petit frère et mon grand-père dans le jardin. J'ai à peine eu le temps de dire « Papy, j'entends un avion » que le ciel de Nagasaki a été éclairé par un flash blanc. Puis il y a eu une détonation. Abasourdi, j'ai couru vers ma mère en criant « La bombe, sur la montagne !» Les vitres ont été brisées, les portes coulissantes arrachées par le souffle de l'explosion. Les bombes atomiques de Nagasaki et Hiroshima ont transformé en un instant ces deux villes en un amas de ruines. Le rayonnement thermique a atteint plusieurs dizaines de milliers de degrés Celsius. Les corps humains se sont évaporés, brûlés. Ensuite, les radiations radioactives ont déchiré les organismes de ceux qui étaient encore vivants. Le lendemain, ma mère est allée aider pour transporter les irradiés dans l'école près de chez nous. Dans les salles de classe, des blessés de tous les âges étaient allongés. La plupart étaient si gravement atteints qu'on ne pouvait pas distinguer s'ils étaient des hommes ou des femmes. Ils gémissaient et une puanteur étrange emplissait l'air. Ma mère s'est demandé s'ils étaient encore des êtres humains.
Ah, Sur les 650 000 personnes irradiées, 250 000 sont décédées avant la fin de l'année 1945. Parmi les survivants, beaucoup ont développé des maladies et des cancers dans les années qui ont suivi.
Cette organisation japonaise, Nihon Hidankyo, a été fondée en 1956. Elle milite depuis sans relâche pour abolir les armes nucléaires dans le monde. Que sont venus demander ses membres en France?
Eh bien, les Hibakusha voudraient que la France s'engage au moins moralement pour un monde sans armes atomiques en acceptant de siéger comme observateur à la prochaine assemblée du Tian qui aura lieu en mars. Le Tian, c'est ce jeune traité des Nations Unies pour l'interdiction des armes nucléaires signé il y a 4 ans, presque jour pour jour, par 93 pays, la plupart des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est. Mais aucun des pays couverts par le parapluie américain, tels que le Japon, l'Allemagne ou les Pays-Baltes ne l'ont signé, encore moins les 9 États détenteurs de l'arme nucléaire, dont la France, qui ont même refusé de prendre part aux négociations de ce traité.
Et pourquoi une telle opposition?
Parce qu'au fond, le Tian remet en cause le concept même de dissuasion nucléaire. Pour les pays signataires, cette doctrine se révèle aujourd'hui non seulement inefficace dans le maintien de la paix, puisqu'elle n'empêche pas les conflits, même entre pays dotés de l'arme nucléaire, Israël et l'Iran par exemple, mais la dissuasion, qui a une vocation défensive, serait, selon eux, en train de se muer en une espèce de dissuasion offensive. La Russie, par exemple, a envahi l'Ukraine en sachant bien que, parce qu'elle est une puissance nucléaire, aucun allié de l'OTAN n'allait intervenir, par crainte justement de provoquer une escalade atomique. Ce débat sur la dissuasion, la Confédération japonaise des victimes des bombardements, forte de son prix Nobel, espère le raviver à l'heure où les dépenses militaires augmentent aussi dans le domaine nucléaire.
Carlotta Morteo, merci beaucoup. À noter que samedi, une pétition mondiale contre les armes nucléaires sera lancée par différentes organisations. Et Nihon Hidankyo en fait partie, évidemment. 6h20 à Paris.
RFI Matin.
Arriver en bas de son immeuble de 15 étages et se rendre compte qu'il va falloir monter les courses à pied, ne plus pouvoir sortir de chez soi faute de pouvoir prendre les escaliers, c'est une mauvaise surprise que beaucoup de Français vivent chaque année et parfois à répétition. La panne d'ascenseur, caillou dans la chaussure au quotidien, notamment dans les grands immeubles anciens des villes et des banlieues. On en recense 1,5 million chaque année dans le pays et les députés s'attaquent à ce problème. Ils ont approuvé hier soir en première lecture une proposition de loi pour lutter contre les non prise en charge. Et près de Paris, c'est un reportage de Sylvie Coffi.
Dans une banlieue résidentielle à Rueil-Malmaison, Abdelhadim ou Taleb se déplace en fauteuil roulant. Il loue un appartement situé au 2e étage. Suite à de fortes pluies, l'ascenseur est en panne et ça dure depuis 2 mois.
Je vis un enfer, quoi, quand même. J'ai l'accessibilité, mais je peux pas me rendre en bas pour des activités autres que celles du télétravail que j'ai chez moi. J'ai envie d'aller dans des musées, j'ai envie d'aller dans des parcs, j'ai envie d'aller prendre l'air, comme tout le monde, quoi. Moi, qui suis en situation de handicap, j'ai l'impression d'être en prison, quoi. Pour l'instant, moi, je subis.
Pour sortir enfin de chez lui, Abdelhadim a trouvé la solution. Il fait appel au service de Foued Ben Ahmed, ce militant au sein du collectif Plus sans ascenseur, a lancé il y a quelques années SAMV, une société d'assistance à mobilité verticale qui développe un outil pour ne plus laisser sur le carreau les personnes à mobilité réduite.
On a adapté en fait un moteur électrique avec des équipements spécifiques répondant à nos usages. On peut déplacer une personne du rez-de-chaussée au 18e étage jusqu'à 130 kg sur tout type d'escalier. Le plus important, c'est la formation, la compétence. Nos assistants sont un peu des guides de haute montagne.
Le guide de haute montagne qui vient délivrer Abdelhadim s'appelle Willy, très souriant. Abdelhadim est harnaché à une chaise très particulière. Avec un moteur électrique à la base, son mouvement rotatif épouse les marches et permet de les descendre. Un travail très particulier pour le jeune de 22 ans.
C'est assistant à mobilité réduite. C'est pas un boulot commun, rendre service, j'aime ça, mais ça demande vraiment de la patience. Une fois qu'on comprend le mécanisme de la chaise, il faut se mettre sur le bord, ensuite il faut pencher la chaise. Il y a le bouton aussi, il y a les 3 vitesses. C'est la chaise qui fait tout, nous on est vraiment là en tant qu'assistant.
Les pannes d'ascenseur récurrentes s'invitent aussi au sein de l'hémicycle. Le député socialiste Philippe Brun porte une proposition de loi.
Avec cette loi, on remet de l'ordre finalement dans ce système de la maintenance des ascenseurs. Obligation de stock de pièces pour les sociétés ascensoristes, obligation de délai d'intervention, obligation de mesures de prescription pour qu'il y ait, dans le cas d'une panne prolongée, des mesures de substitution, donc portage de repas, portage de courses, portage même de personnes et des sociétés qui font ça aujourd'hui dans les escaliers.
Alors que les députés planchent pour trouver une solution, Abdelhadim a pu descendre ces dizaines d'escaliers.
2 minutes pour descendre. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment une solution alternative qui est utile, SAMV, mais ça devrait être juste à court terme. J'ai envie de retrouver ma vie normale.
Chaque année, on recense 1,5 million de pannes d'ascenseurs en France.
Sylvie Coffi et notre reportage France que vous retrouvez sur RFI.fr. Chaque vendredi, vous nous interrogez sur le traitement de l'actualité par RFI. L'émission Pourquoi RFI dit ça est là pour vous répondre. Bonjour Juliette Rangeval.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous revenez sur le témoignage d'un Camerounais diffusé la semaine dernière sur notre antenne.
Souvenez-vous, il s'agit de cet homme qu'on a trompé en lui offrant un travail, en lui faisant miroiter l'espoir d'une vie meilleure, combattre du côté de la Russie. C'est François Mazet qui a recueilli ce témoignage et il revient sur les nombreuses réactions qu'il a suscitées.
Tout ce qui a trait à la Russie crée un niveau d'engagement très important, notamment sur les réseaux sociaux. Et comme il y a des frictions franco-russes depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et même avant, et bien évidemment, les auditeurs s'interrogent. Est-ce que RFI, c'est la voix de la France, donc elle fait tout pour salir la Russie? La réponse est non.
Ce n'est pas le témoignage, le premier témoignage de ce genre, Juliette.
Il y a eu le récit d'un Somalien, par exemple, dans les médias ukrainiens. L'affaire de ce Centrafricain, rapporté par Jeune Afrique, qui avait fait grand bruit. Et puis, ces Ghanéens qui avaient tourné des vidéos pour raconter leur désespoir. François Mazet.
Le témoignage de Samuel, il vient en appui de ça. C'est pas une première, donc c'est pas RFI qui est à la manœuvre pour déstabiliser la Grande Russie. C'est vraiment, il y a une trame qui se poursuit, même si nous, c'est la première fois qu'on entend un Africain sur notre antenne expliquer tout son cheminement.
Ces témoignages, ils sont rejetés par une partie des internautes qui nous accusent de prendre le parti de la France contre la Russie. Laurent Corot, rédacteur en chef au service Afrique, nous répond.
Il y a une guerre informationnelle qui est en cours. Ce qui est important à dire, c'est que nous cherchons justement à nous extraire de cette guerre informationnelle. Nous cherchons à vérifier les informations qui circulent. Nous ne pratiquons pas à RFI le journalisme patriote. Nous ne choisissons pas de camp. Nous pratiquons le journalisme tout court, un journalisme qui est fidèle aux faits et qui vise à fournir au public matière à réflexion.
Laurent Corot dans Pourquoi RFI dit ça. Avec vous, Juliette Rangeval. Les auditeurs vous interrogent en ligne sur les réseaux sociaux et on vous retrouve tout à l'heure à 11h10 et 19h40, temps universel. Et sur RFI, bientôt 5h30, en temps universel. Avant le journal, un peu de musique avec le Nigérian B.O.G. et Adekun Legod, le titre Love Garden dans la sélection du mois d'RFI.
Initiating rage process.
My baby, bring your chest, make I lay my head, cause it don't pain. Be like ice water, we go cool me down when I don't stream. Anywhere where you be, I go day with you, no go change my station. I no go change location. My killing, my lover, my confidant. Even times when I day nonchalant, I go make sure every day okay. I go make sure every day galant. And my poor people could they talk too much? They can't talk to my account balance. You're the only one who can understand. Yeah, we go together like a stack of money and a rubber band. My baby, where you day? Why you day test my patience? You go be my doctor, and I go be your patient. Oh baby, where you dey? Don't make me wait too long, cause I got all this love for you.
No shame on stubborn, I just want my boo. Up here no you, eh? It's just been 2 days. I don't call wedding planner. Trendy B, Vicky James make you cover for Bella Ninja. May nobody tell me I'm moving too fast. I just want love, my baby, so loud. Your body so fire. I've been up from Ghana.
My killing, my lover, my confidant. Even times when I day nonchalant, I go make sure say we day okay. I go make sure say we day galant. I
my bad people, could they talk too much? They can talk to my account balance. You're the only one who can understand. And we go together like a stack of money and a rubber band. My baby, where you dey? Why you dey test my patience? She go be my doctor, and I go be your patient. Oh baby, where you dey?
Adekun Legold des B.O.G. sur le titre Love Garden. C'est dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr.
Initiating Rage Process.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Question de femme, la santé cardiaque au féminin, infarctus du myocarde, AVC, hypertension artérielle, un cardiologue répond aux questions des auditrices.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Stargate, méga projet d'IA lancé aux États-Unis, marque une nouvelle étape dans la course à l'intelligence artificielle. Au même moment, Donald Trump abroge le décret Biden qui encadrait ces innovations technologiques. Quels sont les risques d'une IA affranchie de toute régulation? On en parle avec notre invitée Christine Balaguet.
Les dessous de l'Infox, avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI.